Enjeux de santé, le magazine prévention santé de SILAB.
En partenariat avec l'Agence régionale de la santé et la région Bretagne.
La consommation totale de cigarettes représente plus de 1700 cigarettes chaque seconde en France, soit 60 milliards de cigarettes vendues et grillées chaque année. Une question se pose alors. Si nous savons que la cigarette est mauvaise pour la santé, pourquoi continuons-nous de fumer ? Qu'est-ce que la dépendance à la cigarette et qu'est-ce qui crée cette dépendance ? Catherine de Bournonville, médecin tabacologue au CHU de Rennes, répond à nos questions.
Il y a 13,7 milliards d'années, nous avions une chance sur 200 milliards pour que le Big Bang ait lieu et que l'univers se dilate. Une chance sur 800 trillions pour que la Terre bénéficie d'une température vivable et qu'une cellule évolue d'une certaine manière pour aboutir à l'homme. Une chance sur 20 milliards pour que des centaines de millions d'hommes se battent pendant des milliers d'années et peuplent la Terre de cette façon et pas d'une autre. Vous aviez une chance sur plusieurs trillions pour que votre père et votre mère se rencontrent et une chance sur 200 millions d'être issu de ce spermatozoïde qui a réussi à accéder à l'ovule. Vous avez une chance incroyable, mais ça ne va peut-être pas durer. Un fumeur sur deux meurt du tabac.
La dépendance tabagique, ça ne se résume pas à être accro à la nicotine, hein, ça c'est une évidence. D'un côté, tout ce qui relève, on va dire, de ce qu'il y a dans la substance tabac et qui a les caractéristiques d'une drogue, c'est-à-dire qui est capable de modifier le fonctionnement du système nerveux central. Donc la plus connue, c'est la nicotine. C'est très probable, et c'est des voies de recherche, qu'il n'y a pas que la nicotine. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la relation du fumeur avec sa cigarette et avec son environnement. Donc la relation du fumeur avec son environnement, c'est toutes les situations qui vont déclencher des envies de fumer ou, à contrario, qui vont protéger la personne d'une envie de fumer. Café clope, feu rouge clope, pause clope, etc. Et puis, à contrario, je suis dans un endroit aussi interdit de fumer et non seulement je ne fume pas, mais quelquefois je prends conscience que je ne fume pas et en fait, c'est pas si difficile que ça.
Cigarette ? Non ?
L'intérêt d'explorer tous les types de dépendance, c'est de voir qu'on peut déjà travailler avec des situations qui sont protectrices. Et puis, il y a tout ce qui est la relation un peu plus intime du fumeur avec sa cigarette. Pas plus tard que cet après-midi, il y a une personne qui me disait « c'est mon ami ». C'est assez fort comme terme pour désigner ce petit objet, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif. Là, peut-être, c'est dit d'une manière très intense, mais pour beaucoup de personnes, la cigarette va accompagner, par exemple, la gestion des émotions. Et il n'y a pas que la nicotine dans la cigarette qui permet de gérer le stress, qui permet de gérer un coup de blues, qui permet... Voilà. Il y a aussi, on va dire, cette familiarité qu'on a avec une certaine gestuelle et qui va faire que ça va être efficace que pour le fumeur, parce que vous faites faire ça à un non-fumeur, ça lui fait ni chaud ni froid et ça le dégoûte plutôt. Mais voilà, et donc au moment où on arrête de fumer, il va falloir aussi prendre en compte ça.
L'un des produits le plus montré du doigt dans la cigarette est la nicotine. Mais comment agit-elle sur notre cerveau ?
La nicotine, on la retrouve dans la fumée et une fois qu'on l'a inhalée, elle va directement agir sur le cerveau. Sur le cerveau, Jamy !
Oui, le cerveau ! Et c'est ça le problème !
On a naturellement dans notre cerveau, sur la surface de nos neurones, hein, des petits systèmes de molécules, si vous voulez, des assemblages de molécules qu'on appelle des récepteurs. Normalement, ces récepteurs sont faits pour recevoir des substances qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et tout ça, ça se passe un peu comme un circuit électrique.
Quand un fumeur inhale une bouffée, la fumée descend directement dans les poumons. C'est à ce niveau que la nicotine passe dans le sang. Et seulement 7 secondes plus tard, transportée par le sang, la nicotine arrive dans le cerveau.
C'est-à-dire que lorsque le récepteur est activé parce qu'il y a une substance, une molécule qui rentre en contact avec lui, eh bien ça va déclencher un signal électrique qui va envoyer des signaux dans certains endroits du cerveau, suivant le type de récepteur, suivant le type de molécule qui va se fixer dessus, et qui va entraîner autre part, ailleurs, la sécrétion de substances qui elles-mêmes vont modifier, par exemple, les sensations. Alors là, en l'occurrence, le système dont on parle, c'est un système qu'on appelle le système de récompense, donc qui touche certaines zones du cerveau, dont une qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, bon, peu importe. Et donc, il se trouve que la nicotine a la propriété d'activer un récepteur qui, normalement, n'est pas prévu pour la nicotine, cholinergique, hein, un récepteur à l'acétylcholine. Ça, c'est un neurotransmetteur que nous, on fabrique nous-mêmes. Mais il se trouve que la nicotine qui ressemble à cette molécule peut activer aussi le récepteur. Du coup, c'est des récepteurs d'ailleurs qu'on appelle récepteurs nicotiniques. Hein. Et lorsque ça se fixe dessus, ça enclenche une cascade de réactions qui va se traduire par la sécrétion d'hormones, en particulier dopamine, et qui vont être à l'origine notamment d'une sensation agréable.
Et là, déclencher le mécanisme du plaisir.
Voilà. Alors la sensation agréable, quelquefois, elle n'est pas immédiatement perçue, surtout quand on est fumeur débutant. En général, la première sensation qu'on a, et quand on avale vraiment la fumée, c'est un peu la tête qui tourne. Mais en tout cas, c'est un peu ce truc-là qui fait qu'au milieu de ces impressions bizarres et parfois vaguement écœurantes qu'on a lors de la première rencontre avec le tabac, il y a quelque part quelque chose dans notre cerveau qui a aimé ça et qu'on a tendance à y revenir. On n'est pas tous égaux, il y a des gens qui vont kiffer d'emblée, puis il y a d'autres personnes qui ne deviendront jamais dépendants. Le fait de fumer, alors on voit chez les fumeurs non seulement qu'il y a plus de récepteurs, mais qu'ils ont une durée de vie allongée. Et donc ça, c'est des modifications qui ne se font pas dès la première cigarette, hein, c'est des modifications qui se font après une certaine pratique, hein, et qui vont faire que le cerveau va être modifié dans son fonctionnement durablement.
Seulement, avec le temps, il se produit un autre phénomène. Les récepteurs deviennent de moins en moins sensibles à la nicotine. Les neurones produisent moins de dopamine. Les neurones réagissent. Ils fabriquent de nouveaux récepteurs qui, à leur tour, seront saturés, puis en manque. Et vous l'avez compris, comme il y a davantage de récepteurs, eh bien, il faut davantage de nicotine pour les saturer. Et quand ils ne sont plus saturés, le manque est encore plus grand, donc le fumeur augmente sa dose.
Et ça peut expliquer aussi qu'au moment où on s'arrête brutalement, on est devant un système nerveux qui était habitué à fonctionner, on va dire, avec un carburant supplémentaire qui n'était pas prévu pour, et il va falloir un certain temps pour se remettre en fonctionnement en mode non-fumeur. Et c'est ce qu'on appelle la période du sevrage, pendant lequel le cerveau doit à nouveau se remodeler pour se remettre à fonctionner comme un cerveau de non-fumeur. Ce qu'on voit habituellement, c'est que ça prend 2 à 3 mois, ce qui peut expliquer que les signes du sevrage concernent en général plutôt cette période-là. En sachant que les signes sont quand même beaucoup plus forts dans les premières semaines et qu'ensuite on les supporte beaucoup mieux.
On parle beaucoup de l'addiction liée à la nicotine, mais est-ce le seul produit responsable de la dépendance physiologique ?
Alors, c'est des voies de recherche, mais il y a quand même des produits qu'on a identifiés. Il y en a qui s'appellent par exemple Arman ou Norarman. Ce sont des substances qui sont psychoactives aussi, c'est-à-dire qui ont la possibilité aussi d'activer des choses au niveau du système nerveux central et qui sont de la même famille que certains antidépresseurs. Et à ce titre, peuvent expliquer aussi l'utilisation beaucoup plus fréquente qu'on voit du tabac chez les personnes dépressives, comme si, d'une manière peut-être inconsciente, on allait chercher un petit antidépresseur de surcroît. Et puis, ça pourrait peut-être expliquer aussi que certaines personnes à l'arrêt du tabac ont leur humeur qui plonge pendant quelques temps. Et donc, comme si peut-être ils faisaient un mini sevrage à des antidépresseurs. L'explication n'est pas aussi simpliste en réalité, mais en tout cas, c'est des voies de recherche. C'est des substances qui sont naturellement contenues dans la plante tabac. C'est pas des trucs que les méchants industriels du tabac ajoutent dans les clopes. Il y a des croyances beaucoup à ce sujet. Enfin, du coup, je rebondis là-dessus parce que en fait, moi, j'entends quelquefois, non, mais en fait, s'ils mettaient pas tous ces additifs, ce serait quand même beaucoup moins dangereux. Ou moi, je fume plutôt que des cigares parce qu'il y a que du tabac, il y a pas de papier, etc. Alors derrière, c'est intéressant parce que derrière, il y a une recherche de se faire le moins mal possible. Cela dit, même si vous fumez du tabac bio, lorsque vous activez de la combustion, vous avez la création, par exemple, d'un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone, hein, même avec de la fumée bio, il y en a. Et vous avez aussi production d'un certain nombre de produits qui ont des propriétés cancérigènes, irritantes, etc. Et donc, en gros, la fumée, ça tue, même si c'est de la fumée issue de plantes bio. Les additifs sont là, j'allais dire, pour renforcer la fidélisation du client. C'est-à-dire des agents de saveur pour améliorer le goût, le transformer, le rendre un peu plus sympa. Des agents de texture pour éviter que vous retrouviez tout votre tabac au fond de votre paquet de cigarettes alors qu'il préférait qu'il reste sagement bien coincé dans la cigarette. Des agents de saveur aussi pour rehausser le goût quand on fabrique des cigarettes légères qui sont un peu fadasses. On met des agents de saveur pour rehausser le goût exactement comme vous mettez du sel dans de la sauce bolo.
Chaque année en France, on considère que 750 000 personnes arrêtent de fumer pendant au moins un an. Mais personne n'est à l'abri d'une rechute.
Nous, on a quelques personnes qui sont suivies ici et qui disent « Moi, mon problème, c'est pas d'arrêter, c'est de ne pas reprendre. » Alors, nous, on est contents quand on a des personnes comme ça, parce qu'on a quelquefois des gens où leur problème, c'est « Est-ce que je suis capable de lâcher mon paquet pour aller acheter mon pain à la boulangerie ?» Et donc là, la question de même ne serait-ce que 24 heures sans fumer, c'est déjà une grosse montagne. Donc, chaque fumeur a une relation très personnelle avec la cigarette. Et pour certaines personnes, c'est une relation qui, finalement, n'est pas très serrée, qui fait que, en fait, la plupart du temps, ils sont capables de vivre sans cigarette. Et puis, de temps en temps, il y a une pointe de nostalgie qui va faire que, en général, dans des circonstances qui ne sont pas de la vie de tous les jours, qui sont plutôt des circonstances un peu exceptionnelles, genre une fête, genre retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, genre une grosse tuile, etc., la cigarette va se rappeler à notre bon souvenir. Et là, c'est la question de est-ce que je suis en capacité de faire un choix ou pas.
Si t'as fini ton quart d'heure de nostalgie, tu peux peut-être commencer à réfléchir pour m'aider à arrêter toute cette merde.
Comment arrêter alors ?
Si on utilise un truc pour remplacer la cigarette, à ce moment-là, on fait un sevrage. La personne, elle fait son sevrage et les récepteurs, ils vont pas réagir à un truc où il n'y a pas de nicotine dedans. Donc pendant ce temps-là, le cerveau, il va faire sa modification pour se remettre en mode non-fumeur. Lorsque vous utilisez par contre pour le sevrage un traitement qui contient de la nicotine, ça permet d'éviter à la personne de trop souffrir des signes du manque. Chez certaines personnes, ça peut être vraiment plus confortable avec un traitement, à condition qu'il soit à dose adaptée.
Je vais peut-être essayer le pacte anti-tabac, non ?
Du coup, par contre, on fait un sevrage en deux temps. C'est-à-dire que, un, j'arrête de fumer, et en deux, j'arrête de la nicotine. Simplement, arrêter la nicotine de pharmacie, c'est beaucoup plus facile à contrôler qu'arrêter la nicotine de cigarette. Parce que la nicotine de pharmacie, vous savez exactement ce que vous donnez. La nicotine de cigarette, ça dépend tellement de la manière dont vous fumez, et le fumeur est tellement doué pour adapter sa manière de fumer qu'on contrôle rien du tout, en fait.
Le patch avec la cigarette, c'est mauvais.
Les traitements, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et aucun traitement fait qu'on a envie de crier taratata sur les toits. Parce que les traitements, ça se mesure en termes de je multiplie les chances d'arrêt. Mais les meilleurs traitements, ils multiplient par 3. Et comme les chances d'arrêt, je vous ai dit, c'est 3 à 5% sans aucune aide. Ben, 3 fois 5, ça fait 15%. C'est quand même pas terrible, terrible quoi. C'est mieux. Que rien. Ce qu'on a montré aussi, c'est que associer plusieurs traitements, ça augmente encore les chances. Et en particulier, ce qui marche bien, c'est d'associer un traitement de substitution nicotinique à dose adaptée, etc., avec un accompagnement. Parce que l'accompagnement en soi, c'est un traitement. Et un accompagnement régulier, ça augmente les chances. Un accompagnement, surtout si c'est difficile. C'est-à-dire que les gens, quelquefois, ils disent « Ben non, de toute façon, j'ai rechuté, donc je ne vais pas aller la revoir, ça ne sert à rien. » C'est justement quand c'est difficile qu'il faut aller voir quelqu'un parce que le simple fait de débriefer ce qui s'est passé avec la personne, ça donne un éclairage nouveau et ça permet de repartir.
De la patience et de la volonté, ainsi que l'aide d'un médecin, voilà trois choses primordiales pour multiplier ses chances d'arrêter de fumer.
La plupart des rechutes, quand les gens arrêtent de fumer, la plupart des rechutes, en fait, elles ont lieu dans les 8 premiers jours. et que passé 6 mois, les personnes ont plus de chances de rester ex-fumeur que de rechuter. On connaît tous des gens qui ont repris 15 ans après, et j'avais encore envie et ça. Mais en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a passé le délai de 6 mois, il a plus de chances de rester dans l'arrêt que de rechuter. Voilà. Ça veut dire qu'il a au moins 51% de chances de rester dans l'arrêt, quand je dis plus. Hein. C'est le point de basculement. Voilà. Mais on s'aperçoit aussi que le fait de tenir simplement 4 semaines sans fumer, ça multiplie par 5 les chances de rester dans l'arrêt, qui sont de 3 à 5% à 6 mois. Ça veut dire que si vous multipliez par 5, vous passez à 25% et ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. On arrive à embarquer dans une aventure de non-fumeurs durables, beaucoup plus de gens si on arrive à les épauler suffisamment pour qu'ils tiennent 4 semaines. C'est un peu le principe de ce mois sans tabac.
Lancé cette année par le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé Publique France, l'opération Moi sans tabac vise l'entraide entre personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer tout en fournissant l'aide de professionnels. Elle se déroule à partir du 1er novembre pendant un mois. Enjeu de santé est allé à la rencontre de Anna Bivin, infirmière au CIMS de Beaulieu, Florence Nachin, infirmière au CIMS de Villejean, et Isabelle Nozet, médecin au CIMS de Villejean et Beaulieu.
On sait qu'au bout d'un mois, la dépendance à la nicotine est diminuée de façon avérée. Et qu'il y a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement après cet arrêt de 1 mois. C'est pour ça que le défi a été lancé sur l'arrêt d'un mois au départ. On est parti d'une expérience qui a été faite en 2012 en Grande-Bretagne, Stoptober, qui a montré des résultats efficaces sur l'arrêt du tabac. Donc c'est pour ça que cette idée a été reprise en France cette année.
Partenaire de l'événement, le CIMS organise plusieurs ateliers et animations pour aider l'arrêt du tabac.
Le CIMS organise différentes animations, notamment des entretiens individuels flash pour les personnes intéressées et aussi un groupe défi qui va se réunir sur le temps de 3 midi, 3 périodes en fait sur le mois de novembre. Également, dans la salle d'attente du CIMS tant à Villejean-Beaulieu, on pourra tester le monoxyde de carbone par le biais d'un CO-testeur.
Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Quels sont ses effets? Et quel est le taux correct?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Donc ça entraîne une hypoxémie chronique, un déficit d'oxygène dans le sang, et à long terme avec des conséquences sur des conséquences cardiovasculaires et des conséquences bronchopulmonaires importantes. Donc le taux, on le mesure.
Respire fort et expire bien à fond.
Donc il peut varier de 0 à 35 ou plus de 35, et il reflète aussi la façon de fumer des fumeurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de titration, le fait de fumer, de tirer plus ou moins sur la cigarette. Donc on peut fumer 2 ou 3 cigarettes par jour, avoir un taux de CO très important, et à contrario, fumer une 20aine de cigarettes, avoir un taux de CO assez bas. Donc c'est vraiment un outil précieux pour savoir un petit peu où on en est.
Nous l'avons vu plus tôt, arrêter à plusieurs, c'est multiplier ses chances de réussite. Le CIMS organise des groupes défis collectifs pour arrêter.
Ce sont des étudiants volontaires qui s'inscrivent à ce groupe défi. Pour pouvoir y avoir accès, ils s'inscrivent via notre site internet du CIMS. Donc on propose à une 15aine d'étudiants de s'inscrire et de participer à ces groupes. On compte sur les étudiants pour qu'ils soient moteurs dans ces groupes, pour qu'il y ait une petite émulation de groupe qui naisse, de manière à pouvoir les accompagner dans le défi de ce mois sans tabac.
Bon, et maintenant, tous ensemble.
En soutien, nous avons la présence de l'hôpital Saint-Laurent, de la clinique Saint-Laurent, pardon, représentée par une infirmière tabaco. Donc, il y aura donc 3 séances sur le temps du midi de 12h30 à 13h30 sur chaque site, hein, sur le site de Beaulieu et sur le site de Villejean. Et au cours de ces séances, il y aura une évolution, on espère, mais qui sera créée sous l'influence du groupe. Donc nous, on est là en soutien et on espère pouvoir les voir évoluer et les voir s'inscrire dans un sevrage complet à la fin de ces séances. C'est qu'on va partir de ce qu'ils souhaitent, de leurs attentes, de ce qu'ils savent aussi. Et puis nous, on est en soutien par rapport à leur volonté, leurs difficultés. Et puis, on profitera bien sûr de notre présence, de nos connaissances pour faire un point sur la e-cigarette, par exemple, si c'est des sujets qu'ils abordent ou autres.
Quelles sont les alternatives pour ceux qui ne pourraient pas participer au groupe des filles ?
Pour accompagner les étudiants qui souhaiteraient arrêter de fumer, il y a aussi la possibilité d'appeler le 3989. Pour avoir un accompagnement gratuit par un tabacologue sur 7 ou 8 séances. Il y a possibilité aussi d'aller sur le site tabacinfoservice.fr pour avoir des infos, des conseils et des adresses de tabacologues. Il existe également une application mobile, Tabac Infoservice, avec un programme de coaching personnalisé sur le smartphone. Voilà, et sur le site du CIMS aussi, où il y aura des conseils et des infos et des orientations possibles.
Et donc pour le CIMS, c'est un projet qui a été subventionné et qui nous permet donc d'avoir plus de moyens pour accueillir, proposer des consultations en plus grand nombre, puisque c'est un service qui est déjà proposé de manière courante dans nos services. Mais là, on a plus de moyens humains et financiers pour proposer ces consultations flash et notamment des substituts nicotiniques.
Pour se faire aider durant ce mois sans tabac, les participants peuvent retirer un kit d'aide.
Ce kit, ils peuvent le retirer soit directement en faisant une commande par internet sur le site Tabac Info Service et il est réceptionné dans nos boîtes aux lettres. Sinon, ils peuvent aussi le retirer auprès des pharmaciens qui sont dotés de quelques kits et également dans nos services au CIMS. Alors ce kit, il est composé de plusieurs éléments. Alors, on peut être à l'effigie du mois sans tabac avec un magnifique badge. On propose plusieurs conseils dans ce kit pour accompagner les fumeurs. On sait que parfois, pour gérer son stress, on est amené à fumer. Donc, du coup, on essaye d'encourager le fumeur à gérer son stress d'une bonne manière qu'en passant par la cigarette. Donc, pour cela, on trouve une petite plaquette d'informations qui illustre un petit peu comment on peut gérer les temps de tension. Donc, par des exercices de respiration, par exemple.
C'est normal que tu sois un peu anxieux. Tu dois accepter ton angoisse pour mieux l'évacuer.
On peut aussi illustrer les économies qu'on peut faire lorsqu'on s'arrête, que ce soit sur un jour, une semaine ou trois semaines. Donc grâce à un petit disque qui nous permet de visualiser notre conso et les économies qu'on fait en conséquence. S'ajoute à cela une petite fiche descriptive qui nous permet d'avoir des conseils sur l'alimentation, puisque on a observé qu'une prise de poids pouvait s'installer au cours du moment où on arrêtait de fumer. Donc pour éviter de décourager les fumeurs à l'arrêt puisqu'ils se disent « là, je vais arrêter, je vais prendre du poids », on accompagne du coup les fumeurs à reprendre une alimentation équilibrée avec une petite fiche explicative. Et puis s'ajoute à cela un calendrier alors qui est plutôt bien fait puisque la personne qui se lance dans le défi peut pouvoir chaque jour avoir son calendrier avec J1, je commence à arrêter, jusqu'à la fin. Donc, il commence pas au 1er novembre. Ça sous-entend qu'on peut démarrer ce défi mois sans tabac éventuellement au 7 novembre et on peut utiliser ce calendrier qui est adapté. Donc, à chaque jour, et proposer un conseil et un petit message d'encouragement à la personne qui se lance dans le défi. À cela s'ajoute un petit fascicule qui reprend un petit peu des informations générales sur le tabac et puis des conseils pour bien commencer, pour se lancer.
Il n'y a pas de petits fumeurs. Le seul bénéfice sur la santé, c'est l'arrêt définitif du tabac. Et que c'est surtout la durée d'exposition au tabac qui est importante et qui est délétère.
En gros, un fumeur occasionnel, c'est un fumeur à risque réduit. Je ne peux pas dire que c'est un fumeur sans risque, mais c'est un fumeur à risque réduit par rapport à un fumeur quotidien. Allez voir sur le site de Tabac Info Service, renseignez-vous sur le mois sans tabac, et puis peut-être intéressant aussi de se lancer des défis à plusieurs, parce que ça aussi c'est quelque chose qui a été montré, c'est que se lancer à plusieurs potes, ça augmente les chances d'arriver, parce que ça crée une complicité, c'est galère d'arrêter de fumer, mais on peut rigoler parce qu'on est dans la galère ensemble, etc. Donc c'est peut-être l'encouragement que je lancerai, c'est de se lancer à plusieurs ce défi.
L'approche du défi est intéressante dans le sens où on a tout à gagner, rien à perdre de se lancer dans ce défi mois sans tabac.
C'était la première émission d'Enjeux de santé de cette saison. On remercie chaleureusement Anna Bivin, Florence Nachin, Isabelle Neuzet et Catherine de Bournonville pour leurs réponses et leurs informations. Enjeux de santé est également disponible en podcast sur www.c-lab.fr. Vous l'aurez constaté, tout est mis en place pour aider à arrêter de fumer durant ce mois sans tabac. Les groupes défi auront lieu de 12h30 à 13h30 le mardi 8, 15 et 22 novembre à Villejean en salle de convivialité et les vendredis 10, 17 et 25 à Beaulieu au CIMS. Pour plus d'informations, le CIMS se tient à votre disposition sur le campus de Rennes. Alors en novembre,
fini les cigarettes.
On arrête ensemble pour pouvoir enfin dire
cigarettes.
Merci, j'ai tout arrêté.